France Musique. Muraro au piano. Roger Muraro.
J'ai 16 ans et 3 années de piano seulement. Mes connaissances en musique russe se bornent à ceci. Vous connaissez toute cette phrase, il s'agit du deuxième concerto pour piano de Rachmaninov. J'avais les oreilles pleines d'une version assez ampoulée et que j'écoutais en boucle sur mon vieil électrophone. Alors, quand quelques années après, j'ai travaillé ce concerto dans la classe Yvonne Loriot au conservatoire, alors évidemment, alors vous l'imaginez, Yvonne Loriot, elle n'était pas une femme sérieuse, mais les débordements de ce genre, elle n'appréciait pas beaucoup. J'ai évidemment reproduit cet exemple d'assez mauvais goût, dont j'ai mis d'ailleurs plusieurs années à me défaire. En réaction, je suis passé par tous les excès. Je suis allé trop vite. Après, j'étais... rigide, enfin, raide comme un passe-lacet. Mais enfin, quand j'ai pris connaissance de l'enregistrement de ce concerto de Rachmaninov par Rachmaninov lui-même, au fond, j'ai été rassuré, je me suis rendu compte que ces débordements, quand il jouait sa musique, ces débordements étaient totalement absents. Alors, aux jeunes pianistes d'aujourd'hui, soyez prudents, n'allez pas piocher à gauche et à droite, ci ou là, des idées, ne faites surtout pas ce que j'ai fait. Dixit Scriabine. Toute description de l'absolu ne peut s'exprimer que par des symboles. Pour s'en rendre compte, il faut se mettre en état de résonance. Mais avant tout, mes chers amis, soyez disponibles et débarrassez-vous de vos préjugés. À 23 ans, quand j'ai joué mon premier grand Scriabine, en fait c'était la quatrième sonate, la plus courte d'entre elles, je ne savais qu'une chose, Scriabine était fou. Il se considérait Dieu lui-même dans sa démarche créatrice. Alors vous imaginez bien, je ne suis pas Dieu, loin s'en faut, pas même un héros. Bref, pour aller un peu plus loin dans la musique de cet auteur, pour moi, il était important de savoir deux ou trois choses, car la folie, eh bien, ça ne fait pas jouer. Seule la connaissance de la personne, de la démarche de Scriabine, pouvait m'aider à saisir le sens de sa musique, son exaltation qui touche à la démesure et force l'inquiétude. Cette notion de création que nous décrit Scriabine, cette notion dévoile des images par moments hallucinantes. Des images qui traduisent un céleste incendie, un somptueux scintillement de l'aurore dernière. Tout ça est traduit avec des trémolos frémissants, des tris incandescents, une musique de plus en plus puissante, des accords, des tris soudés les uns aux autres en une harmonie parfaite de trois teintes rose, jaune, bleu, comme une fanfare. Et ce sera le titre du poème « Vers la flamme ». nous venons d'entendre Vers la flamme, interprété par Vladimir Horowitz. Vers la flamme, l'un des plus tardifs poèmes pour piano de Scriabine, concentré de toutes ses trouvailles, c'est l'apogée, je dirais, du pianisme de Scriabine, un pianisme fulgurant. Peut-être est-ce que c'est aussi la somme de sa réflexion philosophique.
Muraro au piano. C'est l'été sur France Musique. Roger Muraro.
Le calcul auquel Scriabine s'est livré pour exprimer sa fantaisie est tout simplement ahurissant. Scriabine, c'est un univers, une pensée qu'il faut creuser, sans quoi on risque de rester à la porte par une lecture peut-être satisfaisante, mais en tout cas très superficielle. L'exaltation romantique est bien sûr palpable dès ses premières œuvres. Le chemin de la philosophie qu'il prendra pour ses dernières compositions est encadré par des calculs mathématiques, des symboles géométriques aussi importants que la construction d'une œuvre picturale italienne de la Renaissance. Vous ajoutez à cela un héritage du pianisme russe traditionnel, riche, onctueux, virtuose, éclatant, évidemment bien éloigné de notre culture française. D'ailleurs, cette technique russe en France a toujours été un sujet d'admiration. Vraiment, dans l'enseignement de mon époque, on vantait les mérites de cette technique, mais en s'en défiant un tout petit peu. Certains pensaient que le piano russe était quelquefois réduit à une expression un peu trop bruyante. Les Russes. Vous imaginez, c'était ignoré que Richter jouait déjà Debussy magnifiquement. Mais en France, Rachmaninoff et encore moins Scriabine n'avaient pas d'interprète équivalent notoire. Est-ce qu'on imagine Yvonne Lefébure, Yvonne Loriot, Monique Haas s'attaquer au deuxième de Rachmaninoff? Je ne sais pas, en tout cas, si Yves Nat avait tenté l'expérience. Par exemple, ni Perlmutter ou Jacques Février. Voilà, le décor est planté et depuis mes 23 ans, je n'ai toujours pas joué de Scriabine jusqu'à ce jour. Pour quelle raison? Je dois dire que je l'ignore un peu. Cependant, Scriabine est toujours resté au fond de ma tête, au fond dans mon esprit, comme un compositeur intrigant, un compositeur qu'on n'aborde pas avec cette facilité avec laquelle on pourrait aborder d'autres auteurs. Scriabine, on a besoin d'un peu de temps, un peu de réflexion, et peut-être est-ce pour cela que je m'y penche aujourd'hui, et que j'ai besoin de savoir d'où vient Scriabine, où est-ce qu'il est allé, l'époque où il a vécu. Je rappelle que quand Scriabine a vécu, donc au tournant du XXe siècle, les Russes, à cette époque-là, ont été très bien accueillis en France. Bien sûr, les guerres napoléoniennes étaient passées par là, Tchaïkovski nous le rappelle dans son ouverture 1812, mais on oublie vite et on inaugure le pont Alexandre III en 1900. Thank you. confronté à l'art français de l'époque, l'expression artistique russe a été, il faut bien le dire, extrêmement sensible. Sensible aux toiles de Matisse, de Monet, de Cézanne, de la musique de Debussy, la musique de Saint-Saëns, le traité de Berlioz, très célèbre en Russie. Tout cela ouvrait des portes d'une expression nouvelle. Et les artistes russes se sont engagés sur le chemin du symbolisme et surtout, plus que quelques autres civilisations, je dirais, les Russes ont rejeté le monde de l'apparence au profit d'un monde intérieur. Ils ont toujours essayé de créer, je dirais, une interaction entre littérature, musique, peinture. Pour Scriabine, cette influence occidentale sera évidemment la source d'une ferveur et d'une idéologie qui vont le mener à ce dont il était le plus fier, c'est-à-dire l'art total. Je l'expliquerai un tout petit peu plus tard, mais je rappelle qu'on est donc dans ces années 1890 jusqu'en 1917, et on appelle cette époque-là l'époque de l'âge d'argent ou le siècle d'argent, qui était une vraie ébullition dans les arts en Russie. Scriabine était-il fou ? Certes, il y a du vrai, mais ce serait réducteur pour toute son œuvre qui recèle des beautés, des trouvailles importantes en ce début de XXe siècle. En cherchant le dénominateur commun entre les sensations et la pensée, Scriabine élabore une grammaire pour retraduire sa vision d'un monde extérieur-intérieur. Il tente de transcender les concepts d'espace et de temps, faisant partie d'un tout illimité où une chose n'existe que par rapport à une autre. Dixit. Rien n'est donc réel, tout n'est que jeu de la réalité suprême, jeu engendré par moi. Et il note, je suis Dieu, je ne suis rien, je suis un jeu, je suis la liberté, je suis la vie, je suis Dieu. Bon, joué en mai 1905, la notice du programme de la troisième symphonie, le poème divin, disait « Le poème divin représente l'évolution de l'esprit humain qui, arraché à tout un passé de croyance et de mystère, qu'il surmonte et renverse, aboutit, après avoir traversé le panthéisme, à l'affirmation enivrée et joyeuse de sa liberté et son unité avec l'univers, le « moi divin ». Thank you. Mais je suis déjà bien avancé dans la carrière de Scriabine. J'aimerais revenir un peu à ses débuts, des débuts qui ont d'ailleurs été très chaotiques. L'adolescent Scriabine était ultra sensible, très tourmenté par son imagination, sa soif de connaissance, de l'origine des choses, de Dieu, du rôle de la prière, pour s'approcher, pour ressembler, peut-être même s'identifier à Dieu. Déjà tout enfant, il était comme ça. Il était en proie à des crises de somnambulisme, parlant parfois dans son sommeil. Et puis, évidemment, avec ses chimères, Scriabine a vite été catalogué de mégalomane. Et Rachmaninoff a très tôt craint pour la santé mentale de son collègue et ami qu'il a connu dès leur apprentissage au Conservatoire de Moscou, dans la classe de piano de Nikolaï Zverev, autour des années 1887-88, par là. Bon, il faut rappeler quand même, mesdames et messieurs les pianistes, que le piano en Russie à l'époque, eh ben c'était sérieux. On faisait des gammes tous les jours, quotidiennement, on bossait, on suivait les cours obligatoires d'harmonie et de contrepoint. En bref, il fallait savoir écrire la musique pour pouvoir la lire. Et sur ce chapitre, Scriabine, il a fait ses classes. Un sérieux problème de tendon à la main droite qui surgit comme ça en 1891. Ce problème de tendon va durer plusieurs années. Scriabine, le virtuose, a le moral au plus bas, pas d'argent, d'ailleurs c'est un problème récurrent toute sa vie, pas d'argent, il ne peut pas jouer. Alors petit à petit il sombre dans la dépression. À Moscou, il mène une vie de patachon, partagée entre l'alcool et les petites françaises. Les petites françaises, c'est le nom délicat qu'on donne aux filles des cabarets ou des prostituées. Bref, c'est le vrai grand premier échec de sa vie. Et Scriabine nous dit « Ici-bas, je ne suis pas chez moi. Mais je reçois des appels, j'entrevois un univers sublime d'esprit, univers de rêve, l'existence y est autre. » Cette période trouble sera à l'origine du Prélude des Nocturnes opus 9 pour la main gauche en 1894. L'écriture d'une œuvre pour la main gauche n'était pas si fréquente. Brahms avait tenté l'expérience. Avec la chaconne de Bach pour violon, qu'il avait donc retranscrite pour la main gauche seule. Liszt aussi avait écrit quelques pièces, Czerny, mais des pièces qui étaient plutôt pédagogiques. Scriabine va lui faire de son Prélude et Nocturne une œuvre tout en délicatesse, une confession d'un vraiment un triste moment au piano, démuni de sa main droite. C'est d'ailleurs la toute première œuvre pour main gauche seule que moi, personnellement, j'ai jouée, et pour mon plaisir. Ça, je dois dire, j'avais oublié que j'avais joué ça à cette époque de 23 ans, pas seulement la quatrième sonate. Mais c'était un plaisir qui m'a aussi provoqué un sentiment de déséquilibre. C'était assez étrange. D'ailleurs, c'est systématique. Quand je travaille une œuvre pour la main gauche seule, ma main droite inactive se dévitalise complètement. C'est comme si tout mon cerveau se concentrait sur l'activité de la gauche. Et, par exemple, après un concert où je dois jouer le concerto pour la main gauche de Ravel, il m'est impossible d'offrir un bis de virtuosité aux deux mains. Ou alors, il faudrait que je dise au public, patientez un moment, je vais faire quelques exercices de Hanon et je reviens. Non, c'est impossible. Toute l'énergie passe dans ce bras gauche, cette main du cœur, quoi. Thank you. Nous venons d'entendre la dernière cadence du concerto pour la main gauche de Maurice Ravel, et c'était Alicia Della Rocha qui était au piano. L'écriture du prélude de Scriabine pour la main gauche seule pourrait s'adapter à un quatuor à cordes. On a un chant, évidemment, le chant, le soprano de l'œuvre, qui est joué par le pouce. C'est au fond un doigt assez pâteau, assez fort, pour un chant extrêmement profond, extrêmement délicat. Ce chant soutenu, ou plutôt un violoncelle lui répond, avec une basse au cinquième doigt. Et c'est vraiment l'usage d'un cinquième doigt assez peu fréquent, puisqu'il se déplace d'une note à l'autre sans avoir la possibilité de doigter en mettant des 3, 4, 5 pour faire le legato entre les notes. Non, le lié de ce violoncelle vient de la possibilité que le cinquième doigt aura de glisser sur les touches pour donner l'impression que c'est un archet. Alors nous avons donc ça. Et au milieu, ma foi, la main gauche, toute seule encore, doit se débrouiller pour faire le petit accompagnement en accord délicat. Alors nous avons les quatre parties vraiment. L'écriture est assez ramassée de ce prélude. Plus loin, elle va se développer, elle va devenir un peu plus expressive, bien entendu, mais tout de même, là, on a un chant concentré dans le centre du piano, vraiment une vraie confession. Le nocturne qui suivra, alors le nocturne, là, est beaucoup plus directement inspiré, évidemment, des nocturnes de Chopin. C'est une pièce très difficile, je dois dire, sur le plan technique, parce que la main gauche voltige vraiment, de manière très délicate, parce que c'est en plus écrit d'une manière pianissimo. Là, je ne pourrais pas vous les jouer, je triche. Je viens de faire à deux mains ce que, normalement, une seule main devrait faire. C'est un idéal pianistique en improvisation romantique, en arabesque évanescente. Les positions sont très mal commodes. Le buste est complètement, le torse est complètement penché sur l'aigu du piano. Il faut prendre son équilibre sur des. Alors c'est là qu'on s'aperçoit, en jouant les œuvres pour main gauche seule, c'est là qu'on s'aperçoit que le pianiste est un vrai quadrupède. Il faut pouvoir prendre l'équilibre sur les pieds pour pouvoir jouer avec la main gauche seule. Enfin, Scriabine nous donne vraiment l'illusion de deux mains qui jouent ensemble. Et je pense que vraiment Ravel a lu cette pièce pour écrire son concerto pour la main gauche. Et nous écoutons maintenant le prélude par Vladimir Sofronitsky et le nocturne par Joseph Levin. Thank you.
C'est l'été sur France Musique. Muraro au piano. Roger Muraro.
L'expression musicale de Scriabine, en dehors de toute considération philosophique, est extrêmement influencée évidemment par Chopin et par Liszt. Ces deux géants du piano incarnaient pour Scriabine la quintessence même de l'art pianistique. Ces influences, la vigueur de ces influences, se manifeste totalement dans l'étude opus 8, numéro 12, dite révolutionnaire, qu'on a la chance de pouvoir entendre jouer par Scriabine lui-même.
Je suis réellement un grand enfant dans beaucoup de domaines. Je ne puis faire un pas avec assurance. Et parlons de mes changements d'humeur. Par moments, il me semble que ma force est sans limite, que tout est conquis et que le monde m'appartient. Une seconde après, le sentiment de mon impuissance me submerge. Lassitude et apathie s'emparent de moi. Il n'y a aucun équilibre en moi. Oui, maintenant, je commence à comprendre ce que signifie d'être seul. Parfois, je suis terriblement déprimé. Je ne sais pourquoi, et j'ai la migraine. Ces jours-ci, j'ai eu sans arrêt tellement mal à la tête que j'ai rasé mes cheveux, et maintenant je suis complètement chauve. J'aimerais tant que ces horribles migraines me quittent.
Lambert Wilson nous lisait une sorte de confession, enfin, de Scriabine sur son état dépressif, sa fatigue, sa tristesse. D'ailleurs, il va soigner tout cela en Suisse, lors d'une cure près de Lucerne, et c'est là-bas qu'il met au point quelques préludes de l'opus 11. Les 24 préludes d'opus 11 ont été composés dans le désordre, sur plusieurs années, entre 1888 et 1895. Scriabine, évidemment, rend un hommage direct aux préludes de Chopin. En peu de temps, nous passons d'une technique à l'autre, d'un sentiment à l'autre. Les formes sont très courtes, avec des alternances de caractères. Il se dégage des courtes pièces de Scriabine une expression de spleen et parfois un sentiment d'exaltation, mais toujours mêlé de fatalisme. Au fond, Scriabine nous livre une œuvre, j'allais dire, typiquement russe. Excusez-moi, c'est un cliché, mais tout de même, ces états d'âme tour à tour dépressifs ou enjoués, Scriabine va les transcrire par des harmonies d'une richesse, ces chromatismes qui est tellement spécifique à la Russie. On en trouve un exemple, alors que tout le monde connaît, enfin, j'espère d'ailleurs que tout le monde se rappelle de cette pièce-là. Ce sont évidemment ces steppes de l'Asie centrale de Borodine. Ravel va aussi se servir de ces chromatismes à la russe pour signer son hommage à Borodine qui est tellement savoureux. C'est à la manière de Borodine de Maurice Ravel. Enfin, je reviens à mes préludes de Scriabine. La texture, je dirais pianistique, des préludes de Scriabine est évidemment beaucoup plus vaste que la texture des préludes de Chopin. D'ailleurs, les préludes de Scriabine sonnent un peu comme des Chopin, mais des Chopin surdimensionnés. Et tout comme Chopin, Scriabine va conserver le plan tonal, c'est-à-dire Do majeur, La mineur, Sol majeur, Mi mineur, Ré majeur, Si mineur, etc., etc. On peut peut-être faire un petit parallèle, d'ailleurs amusant, dans le troisième prélude de Chopin, qui est noté vivace, la main gauche fait un tout petit ruissellement de double croche très vif du début jusqu'à la fin. Celui de Scriabine est noté vivo, mais au lieu de réserver à la main gauche ce ruissellement de double croche, il confie aux deux mains une espèce de petite guirlande tout à fait savoureuse, très optimiste au fond, je trouve. Et c'est intéressant, je trouve, de pouvoir entendre côte à côte, je dirais, ces deux petits préludes. Le prélude de Chopin ici sera joué par une grande dame qui a été mon professeur, c'était Eliane Richepin. Et puis, ma foi, je jouerai moi-même le troisième prélude de Scriabine. Nous pourrions encore continuer les comparaisons entre les préludes de Chopin et les préludes de Scriabine. Par exemple, Chopin, dans le sixième prélude, confie à la main droite une espèce des accords qui sont ponctuées par des notes répétées à l'aigu, comme une espèce de cloche un peu fatale qui revient incessamment tout au long de son prélude. Et cette main droite habille, je dirais en quelque sorte sur le plan de l'harmonie, une grande phrase musicale confiée à la main gauche comme un violoncelle. Scriabine, non pas dans son sixième mais dans son quatrième prélude, confie les mêmes rôles. À la main droite, l'accompagnement de l'harmonie avec des notes répétées, et une main gauche qui va dessiner un chant extrêmement souple, descendant, mais vous savez, c'est comme des plaintes incessantes qui reprennent espoir des fois. C'est presque un prélude, ce sont des sanglots en fait, on peut dire ça comme ça, oui. Et l'influence de Chopin sur Scriabine va même jusqu'à la conclusion de ce prélude, où Scriabine reprend un procédé de Chopin qui consiste à interrompre la ligne par des silences très éloquents. Chopin termine son prélude comme ça. Avec des silences dans les notes répétées. Et Scriabine fait la même chose. Nous entendons maintenant successivement ces deux préludes de Chopin et Scriabine. Eliane Rechepin sera l'interprète du prélude de Chopin et moi-même je jouerai le Scriabine.
Thank you.
C'est l'été sur France Musique. Muraro au piano. Roger Muraro.
Nous voici en 1900 pour l'exposition universelle de Paris. Saint-Saëns compose à cette occasion sa cantate Le Feu Céleste, un hymne à la fée électricité qui a été créé dans l'enceinte du palais de l'électricité au milieu d'une construction de miroirs et de verres éclairés par 12 000 lampes. Vous pensez bien que Scriabine, avec ses illuminations, Scriabine tient absolument à voir et entendre cette œuvre. À son grand dépit, un retard dans les voyages l'en empêchera. Bon. Après tout, qu'aurait-il trouvé dans la cantate de Saint-Saëns ? Pour Scriabine, l'art est une science, surtout une réflexion sur la création et les lois qui la régissent, la quête d'un au-delà global. Scriabine veut être le lien d'union entre le haut et le bas. Il va même jusqu'à prévoir l'utilisation dans l'orchestre d'objets insolites, tels que des hélices d'aéroplanes suggérant les bruits d'ailes de la chute d'Icare. Bref, dans son délire, qu'aurait-il trouvé dans la cantate de Saint-Saëns ? Saint-Saëns, curieux de tout, curieux des différentes histoires et des cultures du monde, Saint-Saëns, avec tout le métier dont il était maître, n'avait composé sûrement qu'une cantate, une œuvre de circonstance, hélas introuvable en enregistrement à ce jour. Nous écoutions un extrait des Barbares, l'opéra de Saint-Saëns, qui est une œuvre à peu près contemporaine de la fantaisie opus 28 de Scriabine dont je vous parle maintenant. Scriabine compose cette fantaisie opus 28 en si mineur et elle représente probablement la dernière œuvre où l'influence de Chopin reste tangible. D'ailleurs, à ce point que je n'hésite pas à comparer cette œuvre à la barcarolle de Chopin, oui. Malgré la démesure du texte de Scriabine, c'est bien Chopin qui résonne, mais à la russe. Les thèmes, les phrases musicales de cette fantaisie de Scriabine sont longues. Les élans passionnels, l'écriture de l'accompagnement est très riche et difficile d'exécution. Cela pose des difficultés d'ailleurs pour les petites mains. Cette fantaisie propose un discours qui est assez difficile à conduire au fond, tant on est englouti par des centaines de notes. Si on les remarque toutes ces notes, eh bien on n'entend plus rien. Il faut avoir donc dégagé dans les plans sonores l'essentiel et conserver au tissu d'accompagnement sa plénitude, sa richesse, sans envahir jamais la ligne conductrice. Sinon, cela reste une performance parfaitement inutile. Je voudrais quand même rétablir quelques liens justement entre la barcarolle de Chopin et cette fantaisie de Scriabine. Le premier thème de la barcarolle est délicatement accompagné. Une espèce de chaloupe très doux qui peut suggérer le balancement d'une gondole à Venise. Et sous ce balancement, Chopin développe un chant en arabesque absolument délicieux. Dans le thème principalement chanté, expressif de la fantaisie de Scriabine, Scriabine reprend le même principe. Une main gauche comme ça qui ondule constamment, avec une main droite. Chopin, plus tard dans sa Barcarolle, reprend un des thèmes qu'il a présenté à mi-voix. Reprend ce thème à mi-voix, mais forté, avec un point culminant d'émotion. Scriabine va faire la même chose. C'est bien la même influence. Alors, si j'insiste un peu sur cette influence de la Barcarolle sur Scriabine, c'est que au milieu de cette folie inspiratrice, Scriabine a gardé, encore pour cette fantaisie, cette notion, j'allais dire entre guillemets, de classicisme. On construit un thème, on le développe, on lui installe une nuance, on développe la nuance. Tout ça est extrêmement étudié. Alors, évidemment que c'est une œuvre très exaltée et que... On sait que Scriabine a la réputation d'être un homme fou. Bon, mais quand même, Scriabine savait ce qu'il voulait quand il écrivait un triolet ou un catolet. Et quand on se met à faire de l'œuvre de Scriabine une caricature même, voulant être plus fou que le roi, à ce moment-là, l'œuvre de Scriabine perd totalement de sa profondeur et de sa beauté. Et après cette fantaisie de Scriabine, opus 28, je peux dire que le compositeur tourne la page à une époque, oui, à une époque de sa vie au piano. Il s'engage plus profondément, plus délibérément sur le chemin de la philosophie et des œuvres qui suivront.
Oui.
Bon, bah écoute, c'est une expérience, hein. Tu sais, je ne l'ai jamais joué. Ça va partir dans le décor inévitablement.
Et je joue.
Et puis voilà. Thank you. Je viens de vous jouer la fantaisie opus 28 de Scriabine, qui marque la fin, j'allais dire, de sa période romantique.
Muraro au piano. C'est l'été sur France Musique. Roger Muraro.
Avant d'aborder la dernière œuvre, Prométhée, je me souviens d'avoir, il y a peu de temps d'ailleurs, justement joué cette œuvre à Paris, à la Cité de la Musique. C'est une œuvre immense, grand chœur, grand orchestre, avec deux solistes, un piano qui tient une part importante, et un orgue de lumière, ou un orgue de couleur. La partie du piano est très difficile, très complexe. Elle n'est pas du tout conductrice dans l'œuvre, elle s'inscrit dans la trame musicale que soutient l'orchestre. Ça n'est pas facile à mettre, j'allais dire, dans les doigts, et même intellectuellement, de s'inscrire dans ce discours, car le piano fait des fusées, des trilles dans tous les sens. Mais cette œuvre reflète toutes les références philosophiques auxquelles s'est intéressé Scriabine. Avec cette idée au fond, cette idée maçonnique du « connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». C'est à Paris, en 1905, que s'est affirmée l'idée de créer une œuvre d'art total, une œuvre qui sensibiliserait les cinq sens, vue, ouïe, odorat, toucher et même le goût, puisque certaines liqueurs correspondaient aux différents sons des instruments de musique. Et puis il y avait la danse aussi. L'audience devait participer aux dynamiques par des déplacements, des gestes qui symbolisaient le mouvement des astres. Et puis il y a aussi le clavier, l'orgue à couleurs, un clavier olfactif. Enfin, toutes ces inventions aboutissent à Prométhée, au poème du feu. Et il s'agit d'une œuvre où le symbolisme est porté à son plus haut niveau. Une théorie des correspondances universelles, des notions de vibrations universelles, tout ça est suggéré par ce fameux accord mystique Do fa dièse si mi la ré, qui va émailler toute l'œuvre de Prométhée. Une œuvre d'ailleurs très curieuse, puisqu'on trouve seulement comme indication de tempo brumeux, avec mystère, contemplatif, joyeux, étincelant, voluptueux. Bref, inutile de vous dire que quand on se trouve en face d'une légende dont le texte, on ne sait pas très bien, au niveau du tempo, quelle attitude adopter. Mais quand même, Prométhée est créé à Moscou en 1911 par Koussevitzky. C'est un grand succès. Et coup du sort, ce héros prométhéen, Scriabine, se brûle les ailes. Le sang empoisonné par la suite d'une piqûre d'insectes, la mouche charbonneuse, affaibli, le pauvre Scriabine meurt finalement d'une pleurésie le 14 avril 1915. Et nous écoutons un peu de ce Prométhée avec la partie de piano tenue par Sviatoslav Richter. Thank you. D'entendre Prométhée de Scriabine avec Sviatoslav Richter au piano et Evgeny Svetlanov à la tête de l'Orchestre symphonique d'État de Russie. Je veux remercier Lambert Wilson pour ses lectures, remercier bien sûr chaleureusement l'École normale supérieure de musique de Paris qui nous accueille dans sa salle Cortot. L'équipe du jour était composée de Julien Bourdet, Tanguy Lecorneau à la prise de son, Xavier Carrère attaché de production et Max James à la réalisation. La programmation musicale est à retrouver sur le site francemusique.fr et vous pouvez également réécouter et télécharger cette émission sur l'application Radio France. Et je vous dis à la semaine prochaine.
À réécouter sur francemusique.fr.